bonsoir. Il y a 4 ans, dans quelques jours, il y aura 4 ans, le 23 mars 2021, je vous interrogeais sur votre dictionnaire amoureux de la géopolitique. Vous étiez à Paris et moi sur cette même scène, mais nous n'avions pas le public très nombreux de ce soir. Alors, j'ai repris par curiosité la prestigieuse connexion des dictionnaires amoureux, donc commencé fondée par Jean-Claude Simoens chez Plomb. Il y a plus de 120 titres, très très variés. Vous allez nous dire pourquoi, je pense, dans un instant. C'est la seule fois où il y a un nouveau dictionnaire amoureux, donc de la géopolitique. Hein, merci. Dans les titres d'ailleurs de dictionnaire amoureux, j'ai même trouvé un dictionnaire amoureux de François Mitterrand, de Jacques Lang, qui est forcément très amoureux et même un peu amoureux de Jacques Lang lui-même d'ailleurs. Ça, c'est un peu normal. Alors, l'édition de 2025 qui est là a pris du poids. On en prend tous, sauf vous qui restez constant. C'est d'ailleurs assez énervant. 80 pages de plus aux 249 entrées du dictionnaire de 21. Vous en avez ajouté 21 nouvelles et 3 qui ont vu leur titre marginalement modifié, encore que ça fait sens, comme on dit, puisque tourisme est devenu sur, entre parenthèses, tourisme, et ainsi pour 2 autres. Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous avez pratiquement changé toutes les notices. Je me suis amusé à faire une lecture comparée des 2 textes. Et vous avez changé parce que vous les avez actualisés de manière tout à fait conséquente à l'aune des changements géopolitiques survenus depuis 4 ans. Ce qui me fait dire que ce n'est pas simplement un nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique, mais c'est un dictionnaire de la géopolitique, dictionnaire amoureux, qui est tout neuf. Ce qui, d'ailleurs, permet de justifier d'investir en cette nouvelle version, revue, corrigée et augmentée, comme on dit. Dans les nouvelles entrées, il en figure une qui est tout à fait d'actualité, c'est l'Ukraine. Ça n'était pas dans l'édition 21. Je dis 21, c'est janvier 21. Ça l'est aujourd'hui. On y lit ceci, je vous cite, Hubert Viedrine. Est-ce que les Occidentaux ont péché par arrogance, manque de précaution et légèreté, et donc imprudence en ne concluant pas un vaste accord de sécurité européen, incluant la Russie, avec une Ukraine neutre, quand cela était encore possible dans la décennie 1990. Et entre parenthèses, vous dites, c'était la thèse de Kissinger, de Brzezinski et celle de Mersheimer. Alors, ce passage, à mon sens, est une sorte de condensé de votre livre parce qu'on y trouve tout. Des auteurs, des théoriciens, des faits et une dimension analytique.
Et beaucoup d'histoires.
Et beaucoup d'histoires. Je continue, après je vous pose la première question, ne vous inquiétez pas. Dans la version de...
Ils veulent la question. Hein.
Oui, oui. Ils vont y arriver. Dans la version nouvelle de 2025, à propos de Brzezinski, vous dites, grâce à lui, on aurait évité un engrenage désastreux qui aurait pu être évité. Alors, ma première question est donc la suivante. Qu'est-ce qui, à votre avis, est le fait majeur dans la crise ukrainienne? Et est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous appelez le comportement des Occidentaux, étant entendu que vous n'aimez pas d'ailleurs ce terme?
Bon, avant de plonger dans la question ukrainienne, je rappelle que c'est l'éditeur qui a eu l'idée de faire un nouveau dictionnaire. Moi, je dis, il est trop récent. Il a eu beaucoup de succès, donc c'est idiot. Mais oui, le chaos est tellement grand. Les gens ne comprennent plus rien, ils ont la trouille, donc ça justifie que, d'où un travail complètement réécrit, terminé après la réélection de Trump. Donc on est dans le monde de Trump. Hein. Il y a toujours Jules César, et il y a toujours Alexandre le Grand, la bataille de Kadesh, mais on est quand même dans le monde de Trump. Par rapport à ça, je commence l'entrée Trump par impensable mais vrai.
On va revenir sur Trump parce que c'est,
oui,
c'est
mais
la suite. Oui.
On ne peut pas répondre sur l'Ukraine sans dire ça.
D'accord.
Parce que sinon, la question ukrainienne ne se présente pas comme elle se présente. Alors, sur l'Ukraine, il y a un débat historique, mais je ne suis pas là pour faire des débats politiques. Simplement, soyez informés du fait qu'aux États-Unis, pas du tout en Europe, qui a des positions complètement manichéennes sur le sujet, avec des tas de raisons morales d'ailleurs, mais aux États-Unis, il y a eu une controverse longue, parce qu'on raisonne depuis 30 ans, là. La fin de l'URSS, c'est il y a 30 ans. il y a 30 ans. La réapparition de l'Ukraine ou la création de l'Ukraine moderne, c'est il y a 30 ans. Et pendant 10 à 12 ans, après la fin de l'URSS, sous Yeltsin, Poutine 1, Poutine 2, Medvedev, Kissinger et Brzezinski, pour une fois d'accord entre eux, plus l'école réaliste Mersheimer que vous avez cité, disait il faut absolument que l'Ukraine soit neutre, qu'elle soit détachée de la Russie, parce que ça affaiblit la Russie, mais qu'elle soit neutre, que ce ne soit pas un aiguillon anti-russe et qu'elle soit dans aucune alliance. Il disait ça il y a 30 ans. Et Kissinger disait en plus, il faut rassembler tout ça dans un accord de sécurité dans toute l'Europe, avec la Russie. L'idée de Mitterrand, que Mitterrand avait en quelque sorte torpillé en la lançant trop tôt, qui était l'idée de la Confédération. Et Kissinger, qui avait combattu l'URSS toute sa vie, qui n'avait pas du tout de sympathie pour la Russie. Hein. Et ça, c'est trop dangereux de ne pas faire ça. Mais on est dans une époque triomphaliste. L'Occident a gagné, badaboum. On est les maîtres du monde, l'histoire est finie. Et l'idée de se casser les pieds à organiser un système spécial sur l'Ukraine, ça n'a pas du tout intéressé Clinton et les autres. Alors, c'est simplement pour que vous sachiez qu'il y a un débat historique complètement dépassé en Europe depuis l'attaque de l'Ukraine par Poutine, mais qui va renaître aux États-Unis, qui renaît sur une forme caricaturale avec Trump, qui veut faire une sorte de deal avec la Russie, mais qui existait avant chez des gens tout à fait anti-Trump. Donc, c'est pas si simple qu'il y paraît. Bon, alors après, quand on revient à la période récente, avec l'engrenage qu'à mon avis on aurait pu éviter, mais qui n'a pas été évité, quand on a l'attaque de Poutine en Ukraine, la seule réponse c'est de le bloquer, quoi. Et là-dessus, il y a la réponse de Biden était très claire déjà, hein. On va l'empêcher de gagner, mais on va pas se laisser entraîner dans la guerre à la Russie, contrairement à ce que demandent les Polonais, les Baltes et la plupart des gens qui blablatent dans les l'information continue en France d'ailleurs. C'est, donc c'est pas la même ligne par rapport à ça. Alors, sauf que Trump a rebouleversé tout. Et Trump, il n'a pas complètement changé, parce que déjà Biden disait on ne mettra pas l'Ukraine dans l'OTAN. Biden. Déjà, il disait il n'y aura pas de troupes américaines au sol. Déjà avant, on peut être contre, mais peu importe, je vous décris la réalité, quoi, par rapport à ça. Alors, Trump va beaucoup plus loin avec sa violence et sa brutalité que vous connaissez. Et il veut se débarrasser du sujet, parce qu'il est centré, d'abord que sur lui et sur les affaires qu'il peut faire dans le monde entier, mais surtout sur la Chine. Alors, donc, pour eux, c'est un non-sujet.
C'était déjà
le cas. Vous assistez en ce moment, il veut se débarrasser du sujet ukrainien. Il n'a même pas besoin de négocier avec Poutine un cessez-le-feu X ou Y. Il dit à Zelensky, tu t'arrêtes parce que tu n'as plus d'aide. Donc tu t'arrêtes. C'est ça que vous êtes en train d'assister. Alors, vu ce que vous avez entendu depuis des années, ça doit vous paraître absolument, d'abord dégoûtant, mais par ailleurs sidérant. Mais c'est ça qui va s'imposer, l'arrêt. Mais l'arrêt du soutien américain, ça veut dire arrêt des combats, en fait, c'est pas encore cesser le feu, encore moins la paix. Vous voyez, c'est encore autre chose.
À propos de Trump, évidemment, vous avez écrit, réécrit la notice après sa réélection, vous l'avez dit tout à l'heure, Hubert Védrine, votre notice commence par le mot « impensable », et vous parlez d'un ébranlement psychique pour sa réélection, pour le monde occidental ou occidentalisé ou mondialisé par l'Amérique. Et vous dites aussi qu'il est trop tôt pour dire ce que cette désagrégation mentale dans un monde occidental va entraîner, ou au contraire, quel sursaut spectaculaire, novateur, surgira en Europe de ce traumatisme.
C'est ce qu'on va vivre ou pas dans les prochaines semaines. Mais l'ébranlement, je reviens là-dessus, pour tout le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique était le point de repère, même pour les anti-américains, pour tout le monde. Alors, voir l'Amérique qui a imposé l'ouverture des frontières des autres et des barrières commerciales, qui a imposé le libéralisme total. C'était pas la mondialisation, c'était l'américano-globalisation. Donc, c'est eux qui ont imposé ça, avec d'abord le GATT, puis l'OMC. Bon, ils prennent la tête de l'inverse. Guerre protectionniste. Donc, la planète économico-commercial mondial est sidéré. Deuxièmement, il fout en l'air toutes les pratiques de la négociation normale, on va dire, même s'il y a toujours le rapport de force, et la négociation multilatérale. Vous voyez la brutalité, ils veulent sortir de tous les lieux de concertation, donc ils se fichent totalement. Déjà, les ministres n'ont pas été au G7, G20, et ils veulent supprimer les organes subsidiaires de l'ONU, etc. donc on peut dire la planète multilatéraliste, ce que les Européens avaient idéalisé, est également chaos. Et il y a un troisième élément, qu'on a vu avec le discours du vice-président Vance à Munich, qui est que le pays d'où est venu le politiquement correct, devenu woke dans les dernières années, mais ça, le mouvement progressiste remonte à quand même 50 ans, c'est ce pays-là qui prend la tête de la lutte contre le, au sens mécanique, réactionnaire, en réaction, contre le mouvement progressiste, et qui veut éradiquer le wokisme. Alors là, il y a plein de gens qui relèvent également de ce courant de pensée au Canada, en Europe. Donc ça fait quand même trois mondes qui sont abasourdis. Et les Européens le sont beaucoup plus que les Chinois, qui n'ont jamais cru à tout ça. Ils sont beaucoup plus réalistes, cyniques, on va dire. Et puis même les Indiens, enfin, aucun des autres dans le monde ne croyait vraiment au baratin d'avance sur la communauté internationale. Donc ceux qui en prennent plein la figure pour le moment, d'où l'agitation de fourmilière que vous voyez là, comme si on avait tapé sur une fourmilière, ça part dans tous les sens, ce sont les Européens. D'où la question, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas, vous allez le vivre comme moi dans les prochains jours. Alors j'essaie de donner des clés, moi, là-dedans. Il y a beaucoup d'histoire exprès, parce que si vous ne mettez pas un peu d'histoire, on ne comprend rien. Mmh. Mais ça ne donne pas réponse à tout, mais au moins ça permet de guider un peu. Et on va le vivre, c'est le moment le plus historique pour l'Europe, parce que l'Europe n'a jamais eu à se défendre avant en tant que telle. D'abord, dans le passé, l'Europe dominait le monde quand elle était divisée. Il n'y a jamais eu d'Europe unie. Hein? Alors, il faudrait remonter à Charlemagne. Bon. Bon. Donc, les Européens ont dominé le monde en étant en rivalité féroce entre eux. Et après la guerre, ils ont demandé aux Américains de les protéger. Donc, les Européens n'ont jamais eu collectivement à se défendre ensemble d'une menace. C'est jamais arrivé. C'est pour ça que vous étonnez pas de voir des réunions qui vous paraissent complètement incohérentes, une tous les trois jours. Et je ne sais pas moi-même ce à quoi ça va conduire dans un mois, deux mois, trois mois.
On va terminer sur l'actualité chaude avec le troisième personnage. On a parlé, troisième mot. On a dit Ukraine, on a dit Trump. Un mot quand même sur Poutine, parce que votre notice en quatre ans, elle a changé, elle a bougé. Il faut regarder dans les détails. Il y a quatre ans, vous écriviez, en fait, il serait tout à fait possible, tout en étant vigilant et dissuasif, voire cyberréactif, d'avoir des rapports plus pragmatiques, écriviez-vous il y a quatre ans, avec Moscou. Ce que Trump voulait, sa seule bonne idée. Puis en 2025, même début du passage, le début de ce passage est inchangé, donc, mais au lieu de pragmatique, vous avez mis le mot stratégique, et vous avez fait disparaître la phrase sur la seule bonne idée de Trump. Vous posez la question, faudra-t-il un jour reparler à Poutine, et qui s'y résignera? Et c'est la fin de votre notice sur Poutine. La question se pose maintenant tout autrement, avec la politique complètement différente de Trump. Et vous évoquez le livre de Georges-Henri Soutou, auquel vous faites référence dans la nouvelle notice sur Poutine.
Oui, c'est un très bon livre d'un très bon professeur qui quand même énumère les erreurs occidentales tragiques. Hein. Mais il sous-estime jamais l'engrenage diabolique du côté russe. Alors, le lien entre les deux notices, c'est que quand je rappelais dans la version d'avant ce qu'avait été l'espérance des réalistes, d'ont réinventé une sorte de coexistence pacifique avec la Russie, même de Poutine, je concluais, vous ne l'avez pas dit, sans doute est-il trop tard.
Oui.
Ça, c'est dans la version d'avant, a fortiori dans celle-là. Mais la question va se poser quand même. Trump va imposer un cessez-le-feu, peut-être dans les pires conditions, s'il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire des menaces. Une garantie de menaces pour que la Russie ne recommence pas. Et ça, on ne sait pas. On ne sait pas si les Européens, à force de lamentations, vont réussir à obtenir un peu des garanties américaines pour pouvoir envoyer quelques troupes, peut-être. On ne sait pas. Si en ce moment. Mais on pouvait dire, d'un point de vue européen, un jour, il faudra quand même reparler avec la Russie. Elle sera toujours à côté. Et la Russie ne sera jamais gouvernée par des chrétiens démocrates scandinaves. Hein. Bon. Donc, en termes de réalisme, pour assurer la sécurité du voisin, il faudrait y reparler. Mais sous le coup des horreurs subies par l'Ukraine, on se dit que ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas possible avec Poutine. En tout cas, pas maintenant. C'est ça la réaction, à la fois politique et morale, normale. Sauf que Trump, il n'a pas attendu. Donc, il est déjà en train de parler. Ils vont accoucher de Dieu sait quoi. Donc, la question pour les Européens, assez vite, c'est est-ce qu'on laisse Trump seul pour parler avec la Russie de Poutine. Où est-ce qu'on attend, on ne sait pas quand, d'avoir un dirigeant russe moins haïssable. Mais je ne peux pas répondre encore une fois à la place des 27 dirigeants de l'Europe qui vont dire ils vont être écartelés, quoi. Entre l'inquiétude d'avoir laissé Trump tout manœuvrer et le fait que moralement ça paraît impossible. Sauf si on arrivait, la moins pire des hypothèses, c'est cesser le feu. Bon, les gens arrêtent de mourir, c'est déjà mieux. Et puis une sorte d'arrangement avec un peu de garantie quand même. Quelques pays européens envoient des armes. C'est pas l'Union européenne qui est incompétente, qui n'a pas de compétences en matière de défense, quoi que raconte Madame von der Leyen, et pas de légitimité pour prendre des décisions militaires. Enfin, imaginons quelques troupes, un peu de garantie américaine quand même. Bon, là, il y aura forcément des pays en Europe, peut-être l'Allemagne, qui diront il faut quand même parler avec Poutine pour notre sécurité à long terme. Ou alors peut-être qu'ils pourront pas pour des raisons, disons, d'opinion. Sur la, c'est que Trump qui jouera le truc.
Mais à ceux qui disent que Poutine ne s'arrêtera pas dans une éventuelle ligne de cessez-le-feu, modèle Corée du Nord, Corée du Sud, sur une DMZ, là, et qu'en fait, son intention, depuis la Géorgie en 2008, c'est de reprendre tous les tranchées proches.
Moi, j'ai un point de vue réaliste. J'ai un point de vue, mais qui est minoritaire, et je peux pas le démontrer. Je pense que les Russes, pas que Poutine, Yeltsin pensait pareil. Solzhenitsyn, à la fin. Navalny, l'opposant qu'ils ont tué il y a un an. Ils pensaient tous que c'était un drame de leur point de vue, que la fin de l'URSS ait laissé 25 millions de Russes et du russophone en dehors. Donc ils voulaient absolument remettre la main sur les minorités ou les zones où on parle russe, y compris les minorités en Géorgie, qui étaient les minorités anti-géorgiennes. Alors les Européens disent, mais c'est terminé, ça, il y a le droit international, les frontières, etc. Mais il y a une sorte d'obsession russe là-dessus. Donc moi, j'ai jamais pensé qu'ils avaient le projet dingue d'attaquer l'OTAN ailleurs. Et je pense que s'ils avaient voulu attaquer l'OTAN, ils l'auraient fait il y a quelques années. Ils n'auraient pas attendu que l'esprit de défense ait réapparu en Europe, alors qu'il avait disparu, que l'OTAN soit renforcé, qu'il y ait des manœuvres géantes sans arrêt au nord, le long de la frontière avec la Russie ou la Biélorussie, que les pays neutres soient entrés dans l'OTAN, etc., etc. Pourquoi il le ferait maintenant? Il faudrait vraiment être cinglé pour de vrai. Alors qu'il est dangereux à tout point de vue, mais pas fou. Mais je ne peux pas le démontrer, ce que je viens de dire. Donc si j'ai affaire à quelqu'un, un Polonais ou un Balte qui serait là, ou un des journalistes innombrables qui parlent dans les débats, etc., qui dirait « c'est pas possible, Poutine est une sorte d'Hitler depuis le début, on ne s'est pas rendu compte, on est très coupable d'avoir été aveugle », ce n'est pas mon point de vue, mais je ne peux pas démontrer mon point de vue. Eux non plus. Et ce qui fait que, dans le doute, il vaut mieux que l'Europe de demain soit très armée. Après tout, un des éléments qui m'a façonné personnellement, c'est d'avoir vécu la bataille des euromissiles auprès de François Mitterrand, qui a vu cette formule géniale un jour.
Les années 80.
Au début des années 80. Et à l'époque où l'URSS avait mis des missiles en Europe de l'Est,
c'est
que l'Europe de l'Ouest.
Les SS-20 d'un côté.
Les SS-20, la question était est-ce qu'on met des Pershing en face ou pas. Et Mitterrand avait une formule géniale un jour en disant les missiles sont à l'Est et les pacifistes sont à l'Ouest. Bon, et on a gagné la bataille des euromissiles. Moi, je suis de cette culture équilibre des forces. Donc, quel que soit le débat historique que j'ai rappelé, je crois qu'il faut rétablir, il faut faire de l'Europe de demain une sorte d'énorme porc-épic. Qui soit inattaquable par qui que ce soit, sauf qu'après, comment on l'organise? C'est quelle force? Qui les commande? Et qui donne les ordres à ceux qui commandent? Bon, c'est les sujets des prochains mois.
Il y a un dernier personnage qu'on va évoquer.
Et on ne parle pas que de ça dans le livre. On ne parle pas que de ça dans le livre.
On ne parle pas que de ça. Le dernier personnage, c'est quand même Xi Jinping. Alors celui-là, je veux dire, il a un vrai poids. Au moins un poids démographique.
Et vous oubliez Netanyahou aussi, dans ceux qui profitent de la situation.
Oui, non, j'ai pas dit que Xi Jinping profitait de la situation. J'ai dit que Xi Jinping n'était pas dans l'édition 21 et il apparaît en 25. Ce qui est passionnant, c'est que vous aviez des notices dans le premier dictionnaire amoureux. Chine-America, un autre sur la Chine, d'ailleurs, stricto sensu, Mao, Deng Xiaoping. Et là, on voit apparaître ici, vous dites, c'est un personnage mystérieux. On ne sait pas exactement comment fonctionne ce groupe des sept, là, qu'on appelle les sept empereurs, en termes de processus de décision à la tête de la Chine. Mais je vous cite, là encore, c'est une notice en conclusion, c'est une phrase en conclusion de votre notice, pardon. « Dans notre monde actuel, mis à part le compte à rebours écologique, climat et biodiversité, qui est vital, la question géopolitique principale est précisément celle de l'évolution du conflit économique Chine-États-Unis dans les prochaines années. »
C'est ça qui obsède les Américains, d'ailleurs. Alors, je redis exprès, pour moi, le vrai sujet vital, global, c'est le compte à rebours écologique. Bon, on ne va pas le développer là. Après, on descend d'un cran dans la géopolitique, c'est le bras de fer États-Unis-Chine. Alors, tant que c'était Deng Xiaoping que j'avais mis, moi, parce que un de mes souvenirs personnels, c'est que j'ai été preneur de notes entre Mitterrand et Deng Xiaoping. Non, j'avais 34 ans.
Quand vous étiez Sherpa, comme on dit.
Non, pas Sherpa. Sherpa, c'était pour les sommets.
Ça, c'était le conseiller diplomatique.
Et quand j'ai dit ça à des Chinois, ils tombent par terre d'émotion. L'homme qui a vu Deng Xiaoping, tout ça. Bon. Donc, j'avais mis Deng Xiaoping. En plus, il a été ouvrier étudiant en France. Oui. Il y a une statue de Deng Xiaoping devant la gare de Montargis. Vous voyez, bon, donc j'avais mis Deng. Et à l'époque, Xi Jinping n'était pas encore assez installé, donc je l'ai mis là. C'est évident que depuis qu'il a dit « on va être numéro un », nous, la Chine, notre système est meilleur que le vôtre, et d'ailleurs, votre système ne marche plus, du point de vue américain, c'est insupportable, intolérable. Jamais, quel que soit le président, ils laisseront un autre pays devenir numéro un. Donc, endiguer la Chine, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la même ligne de Obama jusqu'à Trump. C'est complètement différent, mais c'est la même ligne. Bon, alors que fait la Chine en ce moment? Ils se disent, j'ai vu il n'y a pas longtemps le nouvel ambassadeur de Chine, qui est top, absolument remarquable, et qui m'a dit au bout d'une heure et demie de discussion, de toute façon, ça ne va pas marcher, son truc. C'est Trump. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a tellement de contradictions, il y a tellement de désaccords dans ses équipes. Sa guerre commerciale va relancer l'inflation, etc., etc. On peut faire la liste des sujets. Donc les Chinois se disent, nous on s'en fiche, on a le temps pour nous, et d'ailleurs on va prendre le leadership en matière écologique. Pas écolo ou écolo-politique comme en Europe. Hein. Je parle d'un truc sérieux là. Je parle de l'écolo scientifique. Ils ont déjà, en 10 ans, pris le lead sur les voitures électriques. Donc les Chinois se disent, c'est pas forcément mauvais pour nous, et ils sont les moins inquiets de... Alors, j'ai dit, il y a Netanyahou qui veut profiter un maximum de la situation, mais sinon, la plupart des autres sont quand même très, très incertains, mais la Chine, non. Donc, il y a une sorte de confiance en eux des Chinois. Je ne sais pas s'ils deviendront numéro un jour, c'est un autre sujet, ça. Donc, ça vaut le coup de mettre Xi Jinping, d'autant que, vous l'avez rappelé, c'est complètement mystérieux. Et je ne connais aucun spécialiste, même les Chinois de Californie, enfin, ouais, américains ou autres, qui comprennent comment ça marche.
D'accord.
On ne sait pas si c'est une sorte de dictature tout seul, enfin d'autocrate. Ouais. Il y a quand même un Internet chinois. Hein. Il y a quand même 600 millions de gars, au moins, ou 700 millions, qui critiquent toute la journée. Alors, tant qu'ils ne critiquent pas le président et le Parti communiste, ça va. S'ils critiquent, ils se font fermer. Donc, il y a une sorte de mystère, mais c'est moins immédiat pour nous, la réponse à cette question, que de savoir comment ça va fonctionner entre... Trump, Poutine et compagnie.
Alors, ça permet quand même d'évoquer, dans le cœur du dictionnaire, il y a des notions, des catégories, comme on dit, analytiques en géopolitique. Et voilà, la transition est toute faite. Je voudrais que vous nous parliez du piège de Thucydide, parce que c'est une notion qui est assez passionnante, qui a été conçue par le géopolitologue nord-américain Graham Allison, qui est connu pour son analyse de la crise des missiles de Cuba, hein, Allison. Qu'est-ce que c'est que le piège de Thucydide et en quoi ça peut être transposé à la relation États-Unis-Chine?
Je ne sais pas si ça peut être transposé, justement, mais c'est ça sa thèse. C'est un immense historien de la Grèce ancienne qui avait étudié la relation Sparte-Athènes, etc., et les différentes guerres, en résumant, parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire sur la Grèce, mais en disant que quand il y a une puissance dominante qui est contesté par une puissance rivale, dans 9 cas sur 10, ça se termine par une guerre. Alors après, ça a été repris. Lui, il parle de la des guerres du Péloponnèse.
Oui, entre Sparte et Athènes.
Sparte et Athènes. Athènes a fini par perdre. Et alors après, Graham Allison, qui est un immense professeur américain très, très, très intéressant, il prend une quinzaine de cas historiques et donc presque toujours, ça aboutit à une guerre, en fait. Mais pas toujours. Donc le débat, est-ce qu'on est dans cette situation? Est-ce que le fait que la Chine conteste le leadership américain, parce qu'encore une fois, c'était une américano-globalisation. La mondialisation n'est pas tombée du ciel. Il y a eu des mondialisateurs et des mondialisés. Donc il dit, ce défi chinois va aboutir à une guerre entre les États-Unis et la Chine. Mais il y a l'élément nouveau qui est Trump, parce qu'il a une approche complètement différente. Et il se fiche tellement du monde extérieur, sans être isolationniste. Il se fiche tellement des alliés. Il n'a pas d'alliés, lui. Hein. Du point de vue américain, il n'y a que des protecteurs. Disons, un protecteur, l'Amérique, des protégés qui sont des parasites. Donc c'est complètement différent. Donc est-ce que je ne sais pas ce que dirait Allison, là, maintenant, sur le rebondissement. Parce que là, le comportement de Trump, qui nous ramène à une sorte d'Amérique du 19e siècle...
Avec un, c'est que son, il a cité dans son investiture un président, William McKinley, qui est le président qui d'ailleurs a été assassiné en 1901,
oui.
Au début de son deuxième mandat,
qui
représente un peu l'Amérique heureuse, quoi, mais qui en même temps a mené des guerres coloniales.
L'Amérique du 19e, en fait, il n'y a pas que McKinley dans ses références, qui a donc été assassiné, mais je ne sais pas si c'est un signe annonciateur, on verra. Il y a aussi Jackson.
Oui.
Alors, il adore Jackson. Ouais. Alors, c'est celui qui voulait supprimer l'administration fédérale, un peu comme Musk. Mais ils étaient 10 000 à l'époque. Ouais. Là, c'est plusieurs millions de gens, quand même. Et alors, d'autre part, pensez au Proche-Orient, il avait déporté à l'ouest du Mississippi tous les Indiens qui vivaient à l'est. Ça, c'est Jackson. Donc, c'est la... Nettoyage ethnique, genre l'idée sur Gaza, vous voyez. Bon, alors, il adore Jackson. Il adore McKinley et le premier Roosevelt. Et Monroe.
Teddy. Théodore, ouais. Le moustachu.
Théodore, le premier. Et également Monroe. Il avait dit l'Amérique. Fameuse... L'Amérique, on va virer toutes les puissances coloniales.
Le big stick.
Européenne, on est chez nous. Bon, c'est le 19e. C'est l'époque où ils ont acheté la Louisiane. Parce que,
Pas cher,
oui. D'autant que ce n'était pas la Louisiane, c'était quasiment toute la moitié de l'Amérique.
Du Canada.
Alors, parce que Napoléon a vendu la Louisiane, ils ne l'ont pas volée, ils l'ont achetée. Après, ils ont acheté plus ou moins la Floride aux Espagnols et plein de petites îles. Et puis, ils ont piqué, là, pour le coup, par des guerres, tout le nord du Mexique. Une grande partie de la Californie, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et du Texas. Parce que le Texas d'Alamo, là, le film, c'est le petit moment où le Texas est indépendant. Et après, l'Amérique met la main dessus. Donc, il y a un raisonnement de Trump tout à fait à l'ancienne. Nous, on doit contrôler l'Amérique du Nord. Vous avez vu le changement de nom, là, sur le Golfe. Donc, il veut contrôler de Panama jusqu'au Groenland. D'ailleurs, le Panama, qui est un pays minuscule, à la trouille, ils ont déjà viré les entreprises de Hong Kong qui géraient le canal. Ils ont déjà mis des entreprises américaines. Donc, on est dans l'Amérique du 19e, pas du tout dans celle du 20e. Donc, il n'y a pas du tout le baratin sur les valeurs et tout le truc, là. Mais en même temps, c'est une Amérique avec le dollar, le budget de la défense, qui fait la moitié du budget de la défense du monde entier, et puis l'inversement du combat sur les valeurs. Plus l'intelligence artificielle, même si le mot intelligence n'est pas adapté à ce que c'est. En fait, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un choc, ce qu'on disait au début, là, tous les deux. Ouais. C'est un choc dingue pour les Européens. Mais il faut dépasser d'urgence la sidération. Hein.
On reste dans l'histoire et vous remontez haut et loin, en 1274 avant notre ère.
Mais je suis pas sûr que le piège de Thucydide ce soit fatal.
D'accord. Alors, une bataille qui a bien eu lieu, elle, pour le coup, en 1274 avant notre ère, près de Homs, le nom malheureusement est revenu dans l'actualité ces dernières années, au sud de la Syrie actuelle, c'est la bataille de Kadesh, qui oppose donc Ramsès II d'un côté, le pharaon, aux Hittites, dirigé par l'empereur Muwatalli II. Cette bataille de Kadesh, elle est assez passionnante parce que vous dites qu'elle est presque exemplaire des premières fake news. Racontez-nous ça.
Fake news, j'emploie pas le terme, mais c'est de la propagande. Quoi.
Ouais, ouais.
En fait, c'est une bataille sans vainqueur ni vaincu.
Mais Ramsès va dire que c'est lui.
D'ailleurs, après, ils sont obligés de passer des accords, quoi.
Il va même marier sa fille, enfin.
Entre l'Égypte pharaonique et l'Empire hittite. Oui. Mais dans la façon dont c'est raconté dans les temples en Égypte, c'est une victoire écrasante de Ramsès. Donc il est décrit, il est sculpté, où il y avait Ramsès avec des tas de têtes d'ennemis à ses pieds, comme dans les trucs égyptiens. Donc c'est une gigantesque bataille de propagande. Mais ça, c'est ce qu'on disait tous les deux tout à l'heure sur Napoléon, non ?
Alors, on va en parler de Napoléon, parce qu'il y a trois batailles de Napoléon que vous citez. Austerlitz, la grande victoire. Waterloo, la grande défaite. Vous rajoutez même l'expression hugolienne « morne pleine ». Et puis au milieu, la Bérézina. Et vous dites que dans le langage courant, effectivement, en français, une Bérézina, c'est une déroute en rase campagne, si je puis dire, mais jolie, quoi. Et vous, vous dites, les historiens d'aujourd'hui s'interrogent. Certains disent que la Bérézina n'a pas été une défaite. Alors, cette phrase de Napoléon que vous citez, vous dites, vous l'adorez cette phrase, l'histoire, dit Napoléon, l'histoire est un mensonge sur lequel on s'est mis d'accord. Alors, le spécialiste de géopolitique comme vous, qui forcément fait référence à ce qu'on appelle la diachronie, c'est-à-dire le temps long, comment vous dépatouillez avec les interprétations successives de l'histoire ?
Il faudrait me donner un exemple précis, mais j'adore la phrase de Napoléon là-dessus. Alors, cela dit, moi déjà, je suis réticent par rapport au devoir de mémoire, qui correspond au moralisme contemporain, moraline, aurait dit Nietzsche. Enfin bon,
où on ferait
moralisme contemporain qui n'a aucun intérêt sur le plan historique, mais qui traduit l'état de malaise ou de repentance ou de masochisme du pays qui décrète le devoir de mémoire. Et après, tous les 5 ans, faut changer parce que la vision des gens a changé. En revanche, je crois énormément à l'histoire. Moi, je suis à fond pour l'histoire vraie. Même quand il y a des aspects pénibles dans l'histoire. Mais même là, il y a des limites. Ce que je suis obligé de reconnaître quand même, après ce que j'ai dit sur le devoir de mémoire, qui était ironique et critique, l'histoire, alors moi, pour moi, je place ça très haut, mais je suis obligé de reconnaître, comme Napoléon, que l'interprétation historique globale peut changer. Et sur tous les grands événements de l'histoire de France, par exemple, il y a eu des écoles historiques qui ont duré 50 ans, 100 ans, 2 siècles, 3 siècles. Tout à l'heure, en préparant, on parlait de quelle est la définition du début de la France. Alors, est-ce que c'est... moi, je suis plutôt Philippe Auguste, on va dire, donc Bouvines. Mais d'autres vont dire Clovis, avec la conversion. Bon, etc., etc. Donc, il y a à un moment donné, il y a telle ou telle interprétation qui domine. Et même sur les moments difficiles de la France contemporaine, même sur la Révolution, il y a des points de vue différents. Sur la guerre de 14, il y a des points de vue différents. Sur les années 40, il y a des points de vue différents. Mais je trouve que l'histoire, c'est quand même mieux que le devoir de mémoire, qui est un catéchisme qui apaise un remords, un malaise, mais qui n'apprend rien sur l'aspect histoire. Donc je suis plutôt pour l'histoire, avec les limites qu'on a.
Parmi les grands personnages, j'allais dire spécialistes de géopolitique, on a cité tout à l'heure Kissinger, Brzezinski, Mersheimer. Kissinger, pour vous, c'est un personnage tout à fait fascinant. D'abord, par sa longévité. Hein. Il est mort en 2023, il avait 101 ans. Une histoire assez fascinante. Né en Allemagne, arrivé à l'âge de 20 ans, à 15 ans, pardon, aux États-Unis, naturalisé à 20 ans. Bon, il a peu de maîtres, mais il reconnaît que Aron l'a beaucoup influencé. Et vous dites de lui, c'est un réaliste pur et dur qui ne se rattache pas au messianisme occidental. Il ne prenait pas en compte dans son mode de raisonnement les valeurs, l'opinion, notre rôle universel, l'exportation de la démocratie. Son réalisme a fait, dites-vous, qu'il a été attaqué, citation, sur sa gauche et plus violemment encore sur sa droite par les nouveaux conservateurs, les néocons, comme on dit, et dont on a la confirmation ces derniers jours qu'ils le sont vraiment, je veux dire néo, hein, bien entendu. Pourquoi dites-vous que l'héritage d'Henry Kissinger est compliqué est difficile à mesurer à une époque où les opinions imposent de plus en plus leurs exigences immédiates et passionnées au gouvernement démocratique, ce qui rend presque impossible pour eux de mener une politique étrangère réaliste et rationnelle dans la durée et a fortiori une stratégie.
Ce qui est difficile de mesurer, c'est que les sociétés démocratiques contemporaines, en tout cas avant la révolution Trump, étaient exactement à l'inverse par rapport à ça. En même temps, il a une influence énorme parce qu'il a été lu, en réalité, par tous les dirigeants dans le monde. Et les Chinois ont continué à l'inviter jusqu'à, d'ailleurs, je crois, un an avant sa mort. Xi Jinping l'a invité. Bon. Et alors, Kissinger, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était au pouvoir 8 ans, en fait. 8 ans, c'est pas beaucoup. Mais il a mis en scène Kissinger toute sa vie. Donc il a eu un talent incroyable de, disons, de metteur en scène, d'orchestrateur de Kissinger. Et comme il avait une puissance analytique, descriptive, intellectuelle géante, il a dominé le terrain. Mais cela dit, si on prend les actions de Kissinger, on peut tout à fait les critiquer, comme conseiller pour la sécurité nationale, comme secrétaire d'État. Donc il y a des débats tout à fait légitimes sur la politique de Kissinger. Mais dans la dimension professorale, il est indépassable. Brzezinski, qui a eu une influence énorme, conseiller de Carter, hein, du président Carter, polonais d'origine, archi-anti-russe. Donc c'est lui qui avait théorisé la nécessité de dissocier l'Ukraine de la Russie, mais d'en faire un pays neutre, et pas un pays chargé d'empoisonner la Russie. Bon, ça, c'est un point de vue différent. C'est lui qui a eu l'idée dingue d'aller armer avec l'argent de la famille Bin Laden, qui est milliardaire en Arabie, les talibans d'Afghanistan pour sortir l'URSS. Ils ont réussi, mais avec le prix qu'on voit après, vous voyez. Donc, bien ou mal, il a eu un impact énorme, peut-être plus grand que Kissinger. Mais dans la mise en scène de Kissinger par lui-même, il est indépassable. Quant à Mersheimer, qui est un prof, et on pourrait citer Stephen Walt, enfin, il y en a d'autres. Il y a des grands professeurs de réalisme aux États-Unis, dont il n'y a pas l'équivalent en Europe maintenant, mais ils ne sont pas très connus. Il y a aussi le débat entre Fukuyama et Huntington. Quand l'URSS s'effondre, la vraie date, ce n'est pas la chute du mur, hein, c'est la fin de l'URSS, 2 ans après. Et quand l'URSS s'effondre, Fukuyama dit, ça y est, c'est la fin de l'histoire. Terminé, on a gagné. Et la démocratie de marché va s'imposer partout, et nos valeurs universelles vont s'imposer partout. Valeurs qu'on décrète universelles. Bon. Et Huntington, l'autre professeur de Harvard, c'est des profs de Harvard qui parlent entre eux, hein, en général. Le professeur Huntington dit, mon pauvre ami, tu es trop confiant. Moi, je crains les conflits entre les civilisations.
Il y a un débat sur ce qu'on va appeler civilisation avec Huntington, mais ça, c'est un autre.
Bien sûr. D'ailleurs, un jour où j'arrivais, j'avais un entretien toutes les semaines avec Jacques Chirac, on se voyait quasiment tous les jours, mais on avait un entretien spécial.
Vous étiez ministre des Affaires étrangères de cohabitation.
Entre 97 et 2002, gouvernement Jospin. Donc j'arrive et Chirac me dit, moi je condamne la théorie du clash des civilisations, d'Huntington. Et moi je lui dis, président, je crois qu'il vaut mieux combattre le risque que de condamner la théorie. Comment on ne peut pas dire ça? C'est absurde de parler de civilisation ou de culture, c'est de l'inculture. Je dis, ouais, je suis d'accord. C'est moi qui réponds. Mais les majoritaires, il y a une inculture dans le monde occidental, dans le monde musulman, donc ça peut amener des engrenages d'affrontement par une culture massive de part et d'autre. Enfin, voilà.
C'est sur un vieux, Chirac, vieux débat. On va vite, mais sur Chirac, vous avez une vraie tendresse pour lui. Vous vous rappelez qu'il a refusé de commémorer le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique, hein, avec Christophe Colomb, parce qu'il disait que c'était le début du génocide. Il raconte dans ses mémoires qu'il était toujours du côté des Indiens dans les westerns. Bon,
il y a également une entrée Jospin dans le
livre. Oui, alors il y a une entrée Jospin, il y a une très belle entrée Mitterrand. Ça, c'est la reprise du texte de 2021. On n'a pas le temps, malheureusement, parce que le temps passe vite. Et on a promis de donner la parole à la salle où on prendra les questions, je le dis, 5 par 5. Donc, on n'a pas le temps d'évoquer d'Hannibal, parce qu'Hannibal, il est nouveau, c'est un court texte, mais c'est passionnant. Il y a même un lien que vous faites entre Hannibal et Trump. On n'a pas le temps de parler de la gangstérisation du monde, de l'espace, des minerais, des métaux.
Hannibal, je cite d'autres experts, qui disent c'est peut-être le plus grand général de tous les temps.
Au-dessus de César.
Oui.
Du Maroc et de la Méditerranée. Il y a aussi, dans l'édition 2025, toujours une belle notice sur Tibor Mandé, pour qui vous
Tibor Mandé,
pour lequel vous avez une tendresse. L'amiral Jongreux. Je ne sais pas si je prononce bien.
Longreux.
Ou encore...
un chinois, ça.
Vergennes, bien sûr, le fameux bureau de Vergennes, au Quai d'Orsay. Bon, on va terminer par une notice consacrée à la BD. Je sais que c'est votre péché mignon, avec une illustration qui vous est chère, hein, le portrait du célèbre Ulrich, hein, le méchant de Black et Mortimer, dont vous avez écrit, avec votre fils Laurent, une biographie non autorisée, hein, paru chez Fayard en 2019.
On dit non autorisé parce qu'on dit que les réseaux d'Ulrich nous ont menacés.
Bien sûr. Alors, je vais terminer par... je vais faire un peu comme Edgar P. Jacobs ou Hergé. Je vais vous permettre de gagner à la fin de notre entretien en répondant ainsi à une critique qui parfois vous est faite. Pourquoi dites-vous à propos du mot cynisme, page 122, que si l'on réapprenait le grec, peut-être retrouverait-on le sens des mots?
Parce que dans la confusion contemporaine sur les mots, les concepts, les idées, etc., je traque, ça m'amuse, à la fois les mots valises, comme le mot Europe qui a plein de sens différents, ou bien les mots à contre-emploi, voyez. Et donc j'ai choisi cynisme. Il y a les mots creux comme communauté internationale parce qu'il n'y en a pas. Mais cynisme, ce qui m'a amusé, c'est que la définition philosophique du cynisme à l'origine chez les Grecs, ça veut dire capacité à braver l'opinion dominante. C'est dingue, c'est le contraire exact du sens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le cynisme, ça veut dire une sorte d'amoralisme répugnant, quoi, voyez.
Et vous citez la fameuse phrase du philosophe à Alexandre, ôte-toi de mon soleil, ce qui était quand même courageux.
Hein. Ça, c'est le vrai cynique d'origine.
Voilà. Alors, et je termine, parce que vous ne l'avez pas dit, mais la dernière phrase de cette notice, c'est « Alors, et alors seulement, quand on aura réappris le grec, on pourrait écrire un éloge du cynisme sans passer pour un ennemi du genre humain. » C'est votre prochain livre, ça, l'éloge du cynisme?
Non, ennemi du genre humain, peut-être, non.
Merci beaucoup, Hubert Védrine. Merci.